Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours et à jamais et pour éternité changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, j'ai vraiment à cœur ce matin de vous donner un message d'encouragement. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment être encouragés? Est-ce que ça vous arrive des fois dans la vie chrétienne d'être tenté, d'être découragé? Des fois, on est tenté de regarder nos circonstances, de regarder nos problèmes, de regarder les échecs, les problèmes qu'on a vécus dans la semaine, et on est tenté des fois de se laisser décourager. Mais aujourd'hui, j'ai un message qui est destiné à vous épargner de cette misère et vous mettre sur une piste qui est destinée et même garantie de vous amener à une place où vous allez toujours rester encouragé. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais pour arriver là, il faut comprendre une chose. On va parler de Jésus ce matin. On va parler de Jésus qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur. Mais on va voir aujourd'hui que Jésus-Christ, il est beaucoup plus que juste un Sauveur. Beaucoup de chrétiens, ils croient en Jésus. Ils ont cru les histoires de Jésus. Ils voient aujourd'hui, même ici au Québec, il y a beaucoup de personnes dans leurs autos, ils vont avoir une petite croix avec Jésus pendu sur la croix. Et on pense à Jésus, on pense à ce qu'il a fait, même son sacrifice, mais on pense pas souvent à la réalité de Jésus-Christ dans notre vie quotidienne, du fait que Jésus n'est plus sur la croix. Jésus était à la croix. Jésus est mort à la croix. Jésus était enterré. Mais 3 jours après, Jésus fut ressuscité. Amen. Et Jésus maintenant, après même 40 jours où il a parlé avec ses disciples et les apôtres, il a parlé du royaume de Dieu, il fut élevé devant leurs yeux, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, aujourd'hui même aujourd'hui, on est quoi, le 23 juillet 2006, il est 11h moins quart, aujourd'hui même, pendant qu'on parle, Jésus est assis à la droite du Père. Mais Jésus, il est assis à la droite du Père, mais il n'est pas en train de faire une sieste. Il s'endort jamais. Il n'est pas en train non plus de juste se croiser les bras et dire, « Bon, mais j'ai bien hâte de voir la fin de cette histoire sur la planète Terre. » Et combien de vous croyez que nous sommes vraiment dans les derniers jours? On a juste besoin de regarder les nouvelles, d'ouvrir la télévision et juste le fait, laisse-moi juste dire cela, juste ouvrir une petite parenthèse, juste le fait qu'aujourd'hui, presque tout le monde est en train de parler d'Israël et tout ce qui se passe en Israël. Et peu importe qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous pensez, quelles sont vos opinions politiques, vous ne pouvez pas nier le fait que même l'existence d'Israël aujourd'hui, c'est une des meilleures preuves que Dieu existe et que la Bible est vraie. Et aujourd'hui, on a un petit pays, tout petit dans le Moyen-Orient, et tout le monde regarde ce pays, et tout le monde parle de ce pays. Pourquoi? Parce que la fin est proche, et parce que Jésus revient bientôt, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui vont se passer dans les jours à venir. Jésus va revenir un jour, mais avant qu'il revienne, il n'est pas, comme je dis, juste au ciel en train de se croiser les bras, « Oh, j'ai bien hâte de voir la fin. » Non, il est actif, il fait quelque chose, il a un ministère présent. Il avait un ministère terrestre, mais Jésus a un ministère aujourd'hui qu'il est en train d'exercer en notre faveur. Et il faut qu'on comprenne qu'est-ce que Jésus fait. Il faut connaître Jésus, pas juste dans notre tête, mais il faut connaître Jésus pour vrai. Et aujourd'hui, on va voir des choses dans la parole de Dieu qui vont nous aider. On va commencer en Éphésiens chapitre 1, verset 19. Un verset que j'aime beaucoup qui parle ici de l'importance d'avoir une révélation. Si vous avez le temps plus tard de regarder les versets précédents, je vous encourage à le faire. Mais ici, dans vos notes, ou si dans vos bibles, vous voulez voir, Éphésiens chapitre 1, verset 19. « Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, on voit que Dieu a manifesté sa puissance. Comment? Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, tout le monde dit présent, mais encore dans le siècle à venir, tout le monde dit à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout un, quoi? Tous. Donc là, on ne parle pas d'un petit Jésus qui est toujours pendu à une croix. On parle du Fils de Dieu. Dieu qui était au commencement avec le Père, qui était Dieu et qui s'est fait chair. Dieu qui est devenu un homme, qui a marché sur la terre, qui a donné sa vie comme sacrifice, qui était enterré et ressuscité, mais maintenant glorifié. Jésus est vivant. Et Jésus est assis à la place d'autorité suprême. Il n'y a personne ici sur la planète Terre, personne qui a vécu, personne qui vit, personne qui va vivre, qui est plus puissant ou qui a plus d'autorité que Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? De savoir que Jésus est vraiment Fils de Dieu, mais il est aussi le roi de l'univers. Mais quand on va voir aujourd'hui que Jésus, le roi de l'univers, il nous aime et qu'il a un plan pour notre vie, il veut nous connaître et qu'actuellement, maintenant même, il est en train d'exercer un ministère en notre faveur. Le roi de l'univers travaille en votre faveur maintenant même. Maintenant. Il est en train de faire quelque chose pour vous maintenant. Souvent, on pose la question, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous dernièrement? Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose pour vous cette semaine? Et des fois, on va gratter un peu la tête, dire, ben, je sais pas, hein? Est-ce que j'ai une bonne action de grâce? Et je sais pas, est-ce que Dieu est à l'œuvre? Est-ce qu'il fait quelque chose? Laisse-moi vous dire que même si, dès aujourd'hui jusqu'à votre mort, vous ne voyez pas un autre miracle ou une autre intervention ici sur la terre de qu'est-ce que Dieu fait. Et ça, ce n'est pas le cas, laisse-moi vous assurer. Que Jésus, quand même, est toujours en train de faire quelque chose pour vous. Il fait quelque chose aujourd'hui même, et à ce moment-là, il est à l'œuvre. Tout le monde dit, regarde quelqu'un et dit, Jésus travaille pour vous. Amen. Alléluia. Je sais que dernièrement, Claude a prêché un couple de messages sur l'importance de l'engagement. Et selon qu'est-ce que j'ai entendu, c'était des bons messages. Et je remercie toute l'équipe pastorale pour leur travail pendant notre absence. Ils ont fait vraiment un job extraordinaire. Mais vous savez que c'est bon. On pense à cela, que Dieu veut qu'on soit engagé. Et il faut qu'on soit engagé. Mais une autre chose que je pense qui va nous aider à s'engager à Dieu, c'est de réaliser que Jésus, le roi de l'univers, il est à l'œuvre, il exerce un ministère en notre faveur actuellement et qu'il s'est engagé lui-même en notre faveur et à notre égard. Donc, on va regarder juste un petit peu ce matin l'engagement de Jésus par rapport à la race humaine. Et qu'est-ce qu'on va voir? C'est que Jésus s'est engagé pour l'éternité à la race humaine. 1 Timothée 2,5 dit quelque chose qui devrait vous encourager. 1 Timothée 2,5 dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. » Et c'est quoi le dernier mot qui est dans cette phrase? Homme. Jésus-Christ, homme. Et je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais il y a bien des années, en fait, je pense que c'était en 92 que le Seigneur m'a vraiment donné une révélation sur ce verset-là. Juste la réalité. Parce que, il m'est arrivé dans le passé d'avoir les moments où je laissais mes pensées courir dans les directions qui n'étaient pas forcément bonnes. Est-ce que vous avez déjà fait cela? Et des fois, j'ai donné place à quelques doutes ou quelques pensées, mais je sais que Dieu m'aime, mais est-ce qu'il va m'aimer pour toujours? Et qu'est-ce qui va arriver dans l'éternité? Parce que vous savez que l'éternité est longue. Je m'en souviens, quand j'avais 9 ans à peu près, une fois, j'ai presque viré un fou parce que je pensais à l'éternité, je pensais à l'espace, je pensais à l'infinité et au bout de je ne sais pas combien de minutes, peut-être une vingtaine de minutes, une trente minutes, c'était comme trop. J'étais prêt à capoter, comme on dit, hein? Et j'avais peur tout d'un coup. L'éternité, c'est à jamais, et 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 à jamais. C'est sans fin. L'éternité est longue, n'est-ce pas? L'espace est énorme. Et c'était un peu trop pour mon petit coco, hein? Donc, et je me suis ramassé, c'est vrai, je me suis ramassé sous le lit de ma mère. Parce que j'avais tellement peur. Et dans le fond, c'était bon, parce que c'est le Seigneur qui travaillait dans mon cœur aussi. Et je pense que pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment la réalisation que j'étais pécheur et que j'étais séparé d'avec le Créateur de l'univers. Je me suis trouvé en dessous du lit de ma mère, pour vrai, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais c'est cette pensée que, ah, mais là, j'ai découvert que Jésus m'aime. Je donne ma vie à lui, mais à l'occasion, j'avais des pensées, mais est-ce qu'il va toujours m'aimer? Une fois rendu au ciel, après avoir passé 10 millions d'années, est-ce que Dieu va changer d'idée? Que bon, mais là, je t'aime plus. Je sais pas, peut-être vous n'avez jamais eu ce genre de pensées, hein? J'espère que non. Mais moi, j'ai eu ce genre de pensées. Mais en 92, je pensais plus à ça, mais le Seigneur m'a montré une chose dans les Écritures. Il m'a montré jusqu'à quel point le Seigneur m'aime. Jusqu'à quel point Jésus s'est engagé pour l'éternité. Et que le salut qu'il m'a procuré à la croix, c'est vraiment un salut éternel. C'est pas une chose qui va durer quelques milliers ou quelques millions d'années dans l'éternité. C'est quelque chose qui va durer à jamais. Et que, à moins que Jésus cesse d'exister lui-même, je ne peux pas être perdu. Comment ça? Parce que qu'est-ce qu'on voit, et je l'ai déjà cité en Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14 dit, et la parole s'est fait chair, n'est-ce pas? Dieu est devenu un homme. Ça, c'est un mystère, n'est-ce pas? L'incarnation que Dieu, le Fils, la deuxième personne de la Trinité, a pris une décision de se dépouiller lui-même, de sa divinité et de sa gloire, on pourrait dire pas sa divinité, mais de sa puissance. Et il est devenu semblable aux hommes. En fait, il est devenu un véritable homme. Dieu est devenu un homme. Dieu le Fils est devenu homme. Et qu'est-ce qu'il faut réaliser? C'est que Dieu, aujourd'hui, est Dieu le Fils, je parle de Jésus, il est toujours un homme. Et pour l'éternité, il sera un homme. Pas un homme pécheur, pas un homme qui est limité par un corps physique qui est corrompu ou qui est infecté par le péché, mais un homme qui est maintenant glorifié. Aujourd'hui même, il y a un membre de la race humaine qui est assis sur le trône de l'univers. Pour toujours, Dieu, il s'est lié à la race humaine. Je veux vous sauver. Je vous ai créé, maintenant je vais vous sauver. Et pour vous sauver, je vais devenir un de vous autres. Alléluia! Et vous savez, une fois que Dieu s'est fait chair, il ne peut pas mettre le processus à l'envers. C'est fait, et c'est fait pour toujours. Jésus est homme. Alléluia! Jésus est Dieu, et Jésus est homme. Regarde quelqu'un à votre droite et dit, Jésus est Dieu. Maintenant, regardez quelqu'un à votre gauche et dites, Jésus est homme. Quand il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. On a parlé de cela il y a 2 semaines ou 3 semaines quand j'ai prêché la dernière fois ici, Apocalypse 22, 16. On a parlé de la promesse que Dieu a donnée à David, qu'un membre de sa postérité serait assis sur le trône pour toujours, n'est-ce pas? Et Jésus, même aujourd'hui, si Jésus se présenterait à quelqu'un, moi je peux me présenter à quelqu'un aujourd'hui en disant bonjour, mon nom c'est Ken, mon nom de famille c'est Taylor, mon père c'est Roger Taylor, il habite à Castlewood au Missouri. Mais savez-vous que Jésus-Christ homme, quand il se présente comme la postérité de David. Il dit cela en Apocalypse 22. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. » Vous voyez, il n'a pas juste dit « Moi, je suis le Fils de Dieu. » Il a dit « Je suis la postérité de David. » Je ne sais pas, mais pour moi, ça me donne du courage de savoir que mon Sauveur est aussi membre de la race humaine. Il est un homme comme moi. Je suis un homme, sauf que maintenant, lui, il est glorifié. Lui ne peut plus mourir. Lui, il est immortel aujourd'hui. Et un jour, je serai immortel comme lui. Alléluia! C'est une bonne nouvelle. Donc, Jésus s'est engagé pour l'éternité à la race humaine. Il s'est lié à la race humaine. Il est devenu un homme. Il sera toujours un homme pour éternité. Le roi de l'univers sera un membre de la race humaine. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on va voir? Trois pensées juste pour commencer ce message aujourd'hui. On va voir que Jésus, il s'est engagé pour l'éternité à la race humaine et que, premièrement, il est pour nous. Il faut que vous sachiez que Jésus est pour vous, il n'est pas contre vous. Il vous aime. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? On dirait, oh, ça serait de fun d'avoir une personne d'influence pour nous, n'est-ce pas? On se réjouit quand les personnes politiques prennent de notre côté. On est content quand une personne avec des moyens décide de nous aimer et nous offrir de ses biens, n'est-ce pas? On est content quand on peut gagner la faveur, comme je dis, de la mairesse ou de quelqu'un. On est content de cela. Mais laisse-moi vous dire, peu importe, même si personne d'autre sur la planète Terre est pour vous. Dieu est pour vous. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? C'est-à-dire que Jésus est pour vous aussi. Jésus qui est le fils de David, fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu. La postérité de David, celui qui est assis sur le trône, le roi de l'univers, est pour vous. Autrement dit, Dieu est pour moi. Alléluia! Il n'est pas contre vous. Il est pour vous. Alléluia! Ça devrait vous encourager. Premièrement, il est pour vous. Deuxièmement, il est avec vous. Vous êtes pas mal silencieux aujourd'hui, hein? Je vous donne raison de se réjouir. Il est avec nous. Et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Des fois, on a le sentiment que Dieu est loin, que Jésus est loin. Mais la réalité, c'est que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. On n'est jamais seul si on connaît Jésus. Si on n'est pas encore né de nouveau, c'est notre histoire, mais pour ceux et celles qui sont nés de nouveau, qui connaissent Jésus, il est pour nous et il est avec nous. Et troisièmement, qu'est-ce qui est encore plus merveilleux, c'est que Jésus est en nous. Le roi de l'univers est en moi. On va parler de ça peut-être la semaine prochaine. Je vais prier là-dessus. Le ministère du Saint-Esprit, le fait que comment est-ce que Jésus peut être à la fois assis sur le trône et en moi. Mais c'est possible. Amen. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Tu vois, on dit Christ en moi. L'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Le but de notre séjour ici sur la terre, c'est d'évangéliser, de partager la bonne nouvelle, mais aussi c'est d'être vraiment les hommes parfaits en Jésus-Christ, de réaliser que Christ habite en moi et sa présence en moi, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Dieu est pour moi, Dieu est avec moi et Dieu est en moi. Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Donc, juste pour terminer aujourd'hui, dans les minutes qui nous restent, j'aimerais regarder à peu près 7 choses qui sont destinées à vous encourager. On va parler du ministère présent de Jésus-Christ. On va voir 7 rôles que Jésus joue actuellement. 7 choses qu'il fait pour vous et pour moi aujourd'hui. Il est pour nous. Il est avec nous, il est en nous. Et qu'est-ce qu'il fait pour nous? Qu'est-ce qu'il fait avec nous? Qu'est-ce qu'il fait en nous? Premièrement, numéro un, Jésus est mon substitut. Demandez substitut. Pourquoi est-ce qu'il est mon substitut? Parce qu'il a pris mes péchés. Et malheureusement, mais déjà c'est merveilleux, n'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux de savoir que celui qui n'a pas connu le péché, celui qui était parfait, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais péché dans la moindre chose, celui qui est à 100% juste, celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour que je puisse devenir la justice de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai mérité? C'est l'enfer, littéralement. J'ai mérité l'enfer. Si le Seigneur me donnerait qu'est-ce que je mérite, il m'enverrait à l'enfer. Parce que je suis venu au monde et je faisais partie de tous les autres membres de la race humaine qui étaient infectés par le péché. J'étais séparé d'avec Dieu, privé de la gloire de Dieu. Et vous? Mais parce que Dieu m'a tant aimé, il a envoyé son Fils. Et en son Fils, il m'a donné une chance. La grâce de Dieu, comme Alessa dit. La grâce de Dieu m'a offert une vie nouvelle. Et en Jésus, j'ai un substitut. Il dit, bon, donne-lui pas la punition, donne la punition à moi. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est moi qui va payer. Merveilleux, n'est-ce pas? Il est mon substitut. Regardons ces versets. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Pense à cela. Convenez-vous, vous avez des enfants. Est-ce que vous aimez vos enfants? Maintenant, imaginez la pire personne qui a marché sur la planète Terre. La pire terroriste, meurtrier ou quelqu'un qui a fait des choses atroces, des choses que même pas pensables. Et cette personne est condamnée à la mort. Et maintenant, pense à la possibilité que, bon, pour sauver la vie de cette personne méchante, tu vas donner ton fils ou ta fille, et c'est eux autres qui vont prendre la place de ce méchant. Combien de vous serez prêts à faire cela? C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Jésus est mon substitut. Amen. Et il est toujours mon substitut. Et peu importe qu'est-ce qui se passe, il est mon substitut. Amen. Mais regarde bien, il y a un autre verset. En cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Il est mon substitut, il a pris mes péchés. Numéro 2. Jésus est à l'œuvre aujourd'hui. Il exerce un ministère pour nous. Qu'est-ce qu'il fait? Deuxièmement, il est mon avocat. Avez-vous besoin d'un bon avocat? Vous en avez déjà un. Il s'appelle Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il plaide mon cas. Pensons à cela, que peu importe qu'est-ce qu'on fait, que nous avons un avocat auprès du Père. Que même si on fait des gaffes, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Si on confesse nos péchés, le Seigneur Jésus est toujours là auprès du Père pour dire, Père, laisse-moi plaider son cas. Quand l'accusateur des frères, Satan, vient nous pointer le doigt, mais regarde qu'est-ce qu'il a fait cette semaine. Regarde les pensées qu'il a eues. Regarde comment il a parlé à son épouse. Regarde qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'elle a fait. Notre avocat dit, oui, mais laisse-moi vous expliquer une chose. La personne en question est innocente. Je sais qu'il est innocent. En fait, je sais parce que c'est moi-même qui a payé le prix pour son péché. Amen. Donc, n'écoutez pas l'accusateur des frères, celui qui veut vous condamner. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que je suis en train de dire qu'on peut vivre comme le diable et sans souci? Non. Dieu nous appelle à la sainteté. Mais on sait tous qu'à l'occasion, on va trébucher, on va tomber dans les moments de faiblesse, on peut avoir des temps difficiles. Mais nous avons un avocat! Et il est le meilleur. Il pense que l'avocat qui a aidé O.J. Simpson, vous vous rappelez de lui, le joueur de football, tout le monde dit que Johnny Cochran, c'est « Oh, il est bon, hein? » Mais laisse-moi vous dire qu'il n'y a rien sur Jésus. Jésus a tous les arguments. Et une fois que Jésus présente l'évidence Quelle est l'évidence que Jésus présente toujours? Mon sang. Regarde, c'est payé, c'est net. Cette personne est innocente. Ses péchés sont pardonnés. Il n'y a plus rien dans son dossier. Et il peut dire cela avec vérité, hein? Il a effacé, la Bible dit, les ordonnances qui ont été écrites contre nous. Toute la liste de vos offenses, Jésus les a clouées à la croix et son sang les a effacées. Quand son sang a coulé, ça a effacé chaque offense et chaque condamnation contre nous. Donc, tout ce que notre avocat a besoin de faire, c'est de sortir la liste qui a été écrite contre nous et dire, bon, regarde, il n'y a rien sur la page, c'est blanc. Non, en fait, ce n'est pas blanc, c'est rouge maintenant. Amen. Numéro 3. Mais je vais lire le verset 1 Jean 2, 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Numéro 3. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas juste mon substitut, il n'est pas juste mon avocat, mais Jésus est mon intercesseur. Aujourd'hui, Jésus fait intercession et il prie pour moi. Savez-vous que Jésus, maintenant même, est en train de prier pour nous? Combien de vous croyez que ses prières sont efficaces? Alléluia! Vous n'avez rien à craindre. Jésus prie pour nous! Oui, mais vous ne savez pas quel problème que j'ai! Vous ne savez pas jusqu'à quel point j'étais bouleversé cette semaine, mais Jésus, le Fils de Dieu, amen, il intercède à notre faveur. Mais lui, parce que c'est pourquoi je trouve ça triste. Je comprends, il y a des personnes, à cause de la religion, ils n'ont pas la confiance de s'approcher de Dieu. Ils pensent qu'ils ont besoin de s'approcher de Dieu à travers un autre intermédiaire. Il faut aller voir un curé, il faut prier un autre personnage qui est déjà rendu au ciel, parce que peut-être Dieu ne va pas me recevoir. Mais la Bible est claire, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est Jésus-Christ, homme. Pas besoin d'un autre intermédiaire. On peut prier les uns pour les autres, parfait. Mais sachez que nous avons quelqu'un qui intercède. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire d'intercéder? C'est de se tenir dans la brèche. Nous avons une séparation entre nous et le Père, mais Jésus se tient dans la brèche pour éternité. Il intercède. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Jésus peut vous sauver parfaitement. Et il fait aujourd'hui. Votre salut est à la fois accompli, mais toujours en marche. Parce que Jésus vous a sauvé de vos péchés, mais il vous sauve aussi aujourd'hui. Et il vous sauvera aussi dans le futur. N'est-ce pas merveilleux? C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant. Pour faire quoi? Pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour combien de temps? Pour l'éternité. Alléluia! Je veux qu'on connaisse Jésus ce matin. Que Jésus n'est pas juste mon petit... Il y a des gens aujourd'hui, des personnes sincères, mais sincèrement dans le champ, qui sont religieux. Ils vont regarder Jésus sur la croix et ils pensent qu'il est toujours là. Ou ils vont avoir la pensée de Jésus dans la crèche, mon petit Jésus. Ils ne réalisent pas que Jésus est le Fils de Dieu, le roi de l'univers, et qu'il intercède en faveur des saints, et qu'il est parfait pour l'éternité. Ça, c'est le Jésus que je sers. Ça, c'est le Jésus qui est pour moi. le Jésus qui est avec moi et le Jésus qui est en moi. Luc 22, on voit un exemple de Jésus, comment il a été dans son ministère terrestre. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience où il vous semble que vous êtes en train d'être criblé par l'ennemi? Prenez courage. Jésus a prié pour nous. Amen. Et il intercède pour nous. Et il est parfait pour l'éternité. Nous sommes en lui. Il est en nous. Et pour que l'ennemi nous touche, il faut qu'il touche Jésus. Et il a peur de faire ça. Amen. Numéro 4, Jésus. Quel est son rôle aujourd'hui? Jésus est mon grand frère. Et mon grand frère est fier de moi. Vous savez c'est quoi? Je sais que souvent on a des chicanes entre les frères. Mais souvent on voit aussi les frères qui sont fiers. Hein? C'est le fun, hein? Moi je suis fier. Je viens de voir mon frère il y a quelques jours. Je suis fier de mon frère. C'est pas mon petit frère, c'est mon grand frère. Mon grand frère, il aime le Seigneur. Mon grand frère, laisse-moi te dire, c'est un génie. Il est vraiment un génie. Bon, c'est pas vrai. C'est pas une farce. C'est vrai. Et lui, c'est un scientifique. C'est quelqu'un qui connaît les choses que la plupart de nous, on pourrait même pas imaginer. On peut même pas saisir le concept. Ça, c'est mon grand frère. Hein? Comment est-ce qu'on dit astrophysics? C'est ça. Il est en train de... Oui, c'est ça. Mon frère, c'est un astrophysicien. À l'âge de 12 ans, il lisait Einstein et comprenait tout à fait ce qu'il lisait. Il a écrit une théorie à l'âge de 16 ans qui est en train actuellement d'être étudié par les plus grands scientifiques à Londres parce qu'il pense qu'il a peut-être découvert quelque chose de grand. Ça, c'est mon grand frère. Vous voyez comment je parle de mon frère? Je suis fier de mon frère. Mais pourquoi je dis cela? Parce que j'espère que vous êtes fiers de vos frères aussi, de vos sœurs. Moi, je suis, comparé à mon frère, je ne suis pas du tout scientifique. Mais j'ai d'autres forces et mon frère est fier de moi aussi. Il est fier de ce que je fais. Mais vous savez que Jésus-Christ, il est le premier-né de plusieurs frères, n'est-ce pas? En fait, il est la première personne, le premier membre de la race humaine qui fut né de nouveau, la Bible nous enseigne. Parce qu'il était séparé d'avec le Père a dit, même était pas capable de regarder Jésus pendant qu'il était à la croix parce qu'il est devenu péché. Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus était séparé d'avec le Père, mais quand Jésus fut ramené à la vie, il fut ramené aussi dans sa communion avec le Père, il fut né de nouveau. Il est le premier né d'entre les morts. La Bible dit, il est le premier né d'entre les morts. On sait que c'est pas la première personne qui a été ressuscitée des morts physiques, de la mort physique, parce qu'on voit dans l'Ancien Testament, il y avait des personnes même qui étaient ressuscitées d'entre les morts. Vous vous rappelez quand ils ont creusé une fosse pour enterrer un homme, ils ont jeté le corps dans et ça a touché les os juste du prophète, et la personne a repris vie. À plusieurs reprises, Jésus a ressuscité des morts. Lazare a été ressuscité des morts. Mais la Bible dit que Jésus était le premier né. Le premier né d'entre les morts, spirituel. Première personne née de nouveau, spirituellement, on pourrait dire. Et Jésus, en tant que notre grand frère, il est fier de moi. Il est fier de vous. Vous savez qu'il dit... Ça, c'est ma famille. Il voit chacun de vous. Il voit Marcel, il dit, je suis fier de lui. Hein? Il voit Ginette, oh, c'est ma famille. Ça me fait du bien de penser que Jésus n'a pas honte de nous. Hébreux 2:10 dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Soulignez cette phrase. Pour qui et par qui sont toutes choses. Cela me montre encore que Jésus-Christ dont nous parlons, c'est le Créateur de l'univers. Tout ce qui était créé dans les cieux, sur la terre, c'est Jésus qui l'a créé. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevant à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte. Tout le monde dit il n'a pas honte. Il n'a pas honte de les appeler frères. Vous savez que Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai à toi, et encore me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Regarde, je suis le grand frère, mais je suis fier de ma famille. J'aime chaque membre de la famille. Il n'y a pas un membre de la famille qui n'est pas précieux aux yeux de Dieu. Jésus nous aime tellement. Amen. Numéro 6. Oh, numéro 5, merci. Juste un petit test pour voir si vous étiez endormi ou non. Non, c'est pas vrai. C'est moi qui étais endormi peut-être, non? Numéro 5, Jésus n'est pas juste mon substitut, pas juste mon avocat, pas juste mon intercesseur, mon grand frère, mais il est aussi mon sacrificateur. Mon souverain sacrificateur, en fait. Vous savez que dans l'Ancien Testament, si le peuple de Dieu voulait s'approcher de Dieu, ce n'est pas n'importe qui pouvait le faire. Ça prenait quelqu'un qui pourrait représenter le peuple devant Dieu. Quelqu'un qui pourrait entrer dans la présence de Dieu pour le peuple, pour offrir un sacrifice de sang, pour offrir les offrandes, et pour, on pourrait dire même, intercéder pour le peuple de Dieu. Mais maintenant, dans l'Ancien Testament, ça prenait un homme sanctifié, un homme dans certaines tribus, des Lévites, et cet homme avait besoin, premièrement, avant d'aller offrir un sacrifice pour le peuple, il avait besoin d'offrir un sacrifice pour lui-même, parce que lui-même, il était pécheur. Et il fallait faire attention, parce que dans l'Ancien Testament, vous savez, hein, c'est pas drôle, on ne peut pas s'approcher de Dieu si on n'est pas saint ou sanctifié, sinon une personne sale, on pourrait dire, qui n'est pas sanctifié, ne peut pas vivre dans la présence de la sainteté de Dieu. Et c'est pourquoi même, vous vous rappelez que le prêtre, les sacrificateurs avaient au bord de leurs vêtements des cloches qui sonnaient. Ding, 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 ding. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient toujours une corde autour du pied du sacrificateur. Comme ça, quand il entrait en arrière du voile pour aller dans la présence de Dieu, si jamais quelque chose n'était pas correct, il n'était pas sanctifié comme faux, et il entendait, boum, on n'entend plus les cloches, ils étaient capables de tirer sur la corde sans aller eux-mêmes en arrière du voile pour faire sortir le sacrificateur. On voit jusqu'à quel point Dieu est un Dieu saint. Mais on voit aussi jusqu'à quel point Dieu veut avoir une relation avec nous. Il a envoyé son Fils et Jésus-Christ est devenu notre souverain sacrificateur. Et Jésus est monté au ciel, pas avec le sang d'un taureau, pas avec le sang d'un animal, mais avec son propre sang. Il n'avait pas besoin de l'offrir pour lui-même, parce que lui-même, il était pur et parfait à 100%. Mais il a offert son propre sang pour couvrir nos péchés. Et il s'est assis. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament n'avaient pas le droit de s'asseoir, mais Jésus s'est assis. Pourquoi? Parce qu'une fois pour toutes, c'est fini. Une seule offrande, un seul sacrifice, un seul souverain sacrificateur. Amen. Mais qu'est-ce qui est de fun, c'est que ce sacrificateur qui était parfait était à la fois homme, tenté en toutes choses comme nous, mais sans avoir péché. Et c'est parce que mon sacrificateur était un homme, il comprend mes faiblesses. N'est-ce pas bon d'avoir un sacrificateur qui comprend nos faiblesses? On n'a pas besoin d'avoir honte de s'approcher de Dieu. Parce qu'on peut s'approcher de Dieu par Jésus-Christ avec une assurance. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Jésus sait c'est quoi d'avoir soif. Jésus sait c'est quoi d'être fatigué. Jésus sait c'est quoi d'être frustré, ou pas frustré, mais d'avoir des personnes autour de lui qui sont frustrées ou qui ne comprennent pas. Même lui, il a dit une fois, jusqu'à combien de temps est-ce que je dois rester avec vous? Vous êtes tellement lent à comprendre. Jésus sait c'est quoi d'être un homme. Il sait c'est quoi d'avoir la douleur Il sait c'est quoi d'être rejeté par tous ceux qu'il aimait. Il sait tout. Donc, vous ne pouvez pas dire, bon, Dieu, tu ne comprends pas. Oui, il comprend. Tu ne peux jamais dire, oh, Jésus, tu ne comprends pas. Il comprend parfaitement. Et encore mieux que vous. Oh non, je comprends tes faiblesses, je comprends tes douleurs, je comprends tes échecs, je comprends tes déceptions, je comprends toutes ces choses parce que moi aussi, j'étais un homme. Et je suis encore homme, mais maintenant glorifié. Mais regarde bien, on va finir ce verset parce que c'est tellement bon. Il a dit, quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Comment ça? C'est pas vrai, les gens disent. Jésus n'était jamais tenté par les films pornographiques, parce que ça n'existait pas. Jésus n'était jamais tenté par telle ou telle chose. Non, mais vous savez, Jésus était tenté dans trois domaines. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Les mêmes trois choses, les mêmes trois domaines où Adam et Ève ont été tentés dans le jardin. Regarde, c'est beau à voir, agréable à la vue, n'est-ce pas? Ça va te rendre sage. Les trois domaines où Adam et Ève ont échoué, quand ils ont été tentés, Jésus a réussi à dire non, il est écrit, non, il est écrit, non, il est écrit trois fois. Il a été tenté. Tous les péchés de notre société peuvent être mis dans une de ces trois catégories. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux ou l'orgueil de la vie. Et Jésus était tenté dans toutes ces choses, mais sans avoir péché. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Regardons bien. Et c'est pourquoi il était tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vous savez qu'est-ce que le diable veut? Quand vous péchez, quand vous faites quelque chose qui n'est pas correct, il veut que vous ayez honte. Et il veut que vous ayez peur de vous approcher de Dieu. Mais regarde-toi, tu n'es plus digne de vous approcher de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? C'est de courir à Jésus. Oh, mon souverain sacrificateur, qui vit et qui est parfait pour l'éternité. Il se tient dans la brèche pour moi. Il est mon avocat. Il va plaider mon cas devant le Père. Il va montrer le document, toutes les ordonnances qui ont été écrites contre moi. Il va dire, regarde, c'est blanc et rouge. Il est innocent. Amen. Merci Seigneur. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est avec assurance. C'est, oui Seigneur, je m'approche de toi. Je me lance dans tes bras de grâce. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alléluia. Numéro 6. Il n'est pas juste mon substitut, mon avocat, mon intercesseur, mon frère, mon sacrificateur, mais Jésus est aussi mon pasteur. Amen. Il est le grand pasteur, le berger en chef de l'Église de Jésus-Christ. Comme l'apôtre Pierre a dit en 1 Pierre chapitre 5, Jésus a donné aussi les sous-bergers. Et ça, c'est merveilleux. Et je pense que chaque personne a besoin d'un sous-berger. Moi, j'ai un berger. J'ai un pasteur terrestre aussi. Et je pense que c'est important pour chaque membre de la famille de Dieu d'avoir un pasteur terrestre, un sous-berger qui travaille sous l'autorité du grand berger en chef. Et combien ça fait du bien de savoir que nous avons tous, dans le fond, le même pasteur, le même berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, la postérité de David, le roi de l'univers est mon pasteur. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et mon pasteur, il m'aide à atteindre mon potentiel. En fait, le maximum de mon potentiel. Moi, je sais que sans un pasteur, même ici sur la terre, on a de la difficulté. On est dans l'impossibilité même d'atteindre le maximum de notre potentiel. Selon Éphésiens 4, 11 et 12, il a donné les apôtres, il a donné les prophètes, il a donné les apôtres, les évangélistes, il a donné les docteurs pour le perfectionnement des saints. On a besoin de ces dons du ministère, mais toutes ces choses et tous ces dons viennent de lui, le grand berger en chef. Et c'est lui qui veut nous aider à atteindre le maximum de notre potentiel. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix, le Dieu de shalom, on pourrait même dire. N'oubliez pas, parce que Paul écrit, pas Paul, mais C'est l'écrivain des Hébreux, il écrit ici aux chrétiens juifs. Donc il dit que le Dieu de paix, on pourrait dire probablement, il pensait au shalom, que le Dieu de shalom, rien de brisé, rien qui manque, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par le sang d'une alliance éternelle, on dit éternelle. Notre Seigneur Jésus, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est un verset qui devrait vous encourager. Que votre pasteur au ciel, il veut faire en sorte, il veut vous rendre capable. Tout le monde dit, je suis capable? Comme ils ont dit à mon fils quand il est allé à la maternelle, le professeur a dit, pas capable, viens pas à l'école. Parce qu'elle ne voulait pas entendre les enfants dire, mais je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Non, pas capable, viens pas à l'école. Donc, dites jamais, je ne suis pas capable de vivre la vie chrétienne, je ne suis pas capable de marcher dans la sainteté, je ne suis pas capable de marcher par la foi. Non, le grand pasteur, le souverain pasteur, il va vous rendre capable. Alléluia. Capable de faire quoi? Qu'est-ce qui est marqué dans ce verset? Qui vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Tout le monde dit, je suis capable de faire sa volonté. Amen. Et il va faire en vous ce qui est agréable, ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, il est mon pasteur, il m'aide à atteindre mon potentiel. Et finalement, pour terminer aujourd'hui, numéro 7, qu'est-ce que Jésus fait aujourd'hui dans son ministère? Pour moi, il est l'auteur de mon salut. Et l'auteur de mon salut, comme auteur de mon salut, il me mène à la perfection. Il me mène à la perfection. Vous savez, l'auteur d'un livre, il connaît le commencement de son livre, il connaît qu'est-ce qui se passe au milieu de son livre, et il connaît la fin de son livre, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui est l'auteur. Vous pouvez prendre un livre, un roman ou quelque chose et commencer. Ah, oh, wow, vous êtes tous captivés. Peut-être au moment donné, il y a un conflit et ah, oh, vous êtes en larmes et la personne que vous voulez voir gagner a l'air de peut-être perdre. Oh non, ça se peut pas. Ou hein, pour les femmes qui aiment les histoires d'amour. Oh non, ça se peut pas. Elle peut pas se marier avec lui. Et vous êtes toutes stressées, hein? C'est comme Anne de Pignon Vert, hein? Vous connaissez l'histoire d'Anne de Pignon Vert, hein? Oh non, elle ne peut pas se marier avec lui, c'est Gilbert, c'est son amour. Et si vous ne connaissez pas la fin de l'histoire, ça peut vous stresser. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Des fois, on se trouve dans la situation, c'est comme, ah, oh, ça ne se peut pas, mais c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, c'est l'auteur de notre salut, et laisse-moi vous assurer que les histoires que Dieu écrit se terminent toujours dans la victoire. Amen? Donc, on n'est pas obligé de finir le livre. On peut juste se rendre là. Quelqu'un qui regarde le film, Anne des Pignons Verts, et là, Anne est prêt à peut-être se mettre dans l'union conjugal avec quelqu'un à part Gilbert Blythe. C'est sérieux, ça. Et si vous pouvez être tellement découragé, oh non, je veux même pas voir la fin, et vous pouvez fermer la télévision ou fermer le livre, et dans votre tête, dans votre pensée, Anne va finir sa vie avec lui. Et vous savez, on fait la même chose dans la vie chrétienne. On se trouve dans la situation que ça va pas selon notre goût. « Ah, je comprends pas, Seigneur, comment ça que tu as permis cela ou fait cela? » C'est pas Dieu qui fait des choses qui sont méchantes dans notre vie. Et si on fait pas attention, on peut fermer le livre sur Dieu en disant, « OK, bon, je veux rien savoir. » Et ça termine là. Et on peut vivre le restant de notre vie dans un chapitre de conflit, sans jamais voir la résolution que Dieu a écrite pour nous. Amen? Dieu est l'auteur de notre salut. Je vais lire juste ces deux versets pour terminer. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hébreux 12, 1 à 3, et on va finir avec ce verset, cette exhortation. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec quoi? Avec persévérance, l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur qui? Pas fixés sur le problème, pas fixés sur les échecs, pas fixés sur les circonstances, pas fixés sur les symptômes, pas fixés sur les choses négatives, mais les yeux fixés sur Jésus, qui est notre substitut. Les yeux fixés sur notre substitut, on peut dire. Les yeux fixés sur notre avocat. Les yeux fixés sur notre intercesseur. Les yeux fixés sur notre grand frère. Hey, laisse-moi tranquille. Mon grand frère va venir te battre, sinon, hein? Les yeux fixés sur notre souverain sacrificateur qui sait compatir à nos faiblesses. Nos yeux fixés sur le grand pasteur et gardien de nos âmes. Nos yeux fixés sur l'auteur de notre salut éternel. Nos yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la quoi? Perfection. Au lieu de la joie qui lui a été proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne. Oh, tout le monde est contre moi! Est-ce que vous avez déjà pleuré comme ça? Oh, c'est pas juste, tout le monde est contre moi. Pensez à Jésus. Même les siens étaient contre lui. Même Pierre l'a renié trois fois. Mais regarde bien, considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Aujourd'hui, c'est un message d'encouragement. Nous avons un sauveur, mais on a plus qu'un sauveur. Nous avons un substitut, un avocat, un intercesseur, un grand frère, un sacrificateur, un pasteur et l'auteur de notre salut, l'auteur et le consommateur de notre foi, celui qui a commencé en nous une bonne œuvre, c'est lui qui va la rendre parfaite. Et on refuse d'accepter autre chose. On refuse de fermer le livre au milieu de l'histoire. On va aller jusqu'au bout. Et on va découvrir que, ah oui, on gagne. Mon arrière-grand-père, il a consacré sa vie au Seigneur vers la fin de sa vie. Avant ça, il ne vivait pas du tout une bonne vie chrétienne. Il jouait à l'église un peu. Et même, il jouait au prédicateur des fois. Parce qu'il était un grand amateur de chasse. Il voulait chasser sur les fermes. Donc, il allait se présenter. « Oh, je suis le révérend Taylor et j'aimerais juste savoir. » Il chantait quelques chants pour la femme de la maison. « Oh oui, tu sais, chérie, on devrait le laisser chasser sur notre terrain, pas de problème. » Puis, en arrière de la maison, il sort la bouteille de whisky ou de quelque chose. « Mais tu sais, comme le bon livre dit, toute chose en modération. » Et puis, il gagnait la confiance de l'homme. Ça, c'est la folie. Pourquoi je dis cela? Parce que lui, il a vécu toutes sortes de choses. Il n'était pas forcément gentil. Mais vers la fin de sa vie, il a vraiment eu une expérience avec Dieu. Il a connu Dieu. Il a été sauvé de ses péchés. Gloire à Dieu! Je crois qu'il a prié pour moi aussi. Et il avait quelque chose qu'il disait dans les derniers jours de sa vie. Souvent, il disait, vous l'avez souvent entendu ailleurs, mais ça a fait une impression sur ma vie. Parce qu'il lisait souvent sa Bible. Il aimait surtout l'Apocalypse. Il disait souvent, j'ai lu la fin du livre et nous gagnons! Amen! Amen. Amen. J'ai lu la fin du livre et nous gagnons. Alléluia! Si on garde les yeux fixés sur Jésus, on gagne. On gagne. Peu importe, même si votre vie, jusqu'à aujourd'hui, c'était une vie d'hypocrite, une vie qui est une farce, vous avez quelqu'un assis à la droite de Dieu. Vous avez un substitut. Vous avez un avocat. Vous avez un sacrificateur, un grand frère. Vous avez quelqu'un avec les bras grandement ouverts en disant, viens à moi. Tout est pardonné. Tout est effacé. Tu peux avoir une vraie vie chrétienne. Tu peux avoir une véritable relation avec moi. Tu peux me connaître pour vrai. Pas juste venir à l'église le dimanche, s'asseoir et chanter, puis aller vivre comme le diable le restant des jours. Mais non, à tous les jours, vous pouvez me connaître. C'est ça que Dieu veut. Et si on peut avoir quelqu'un au piano, on va prier ce matin. On va prier. Merci, Père Céleste. Seigneur Jésus, tu nous donnes libre accès auprès du Père. Tu as inauguré une route nouvelle par ton propre sang. Le voile du temple a été déchiré. Et maintenant, on n'a plus besoin d'un autre homme sur la terre qui peut nous représenter. Parce que nous avons un souverain sacrificateur qui vit pour l'éternité. Et en fait, nous sommes tous, selon ta parole, un royaume des sacrificateurs. En saint sacerdoce, on peut s'approcher de toi avec assurance. Père, je te remercie que tu as envoyé Jésus. Oh, alléluia! Sans Jésus, où est-ce que je serais? Oh, alléluia! Merci, Seigneur. Tu as envoyé ton Fils, ton seul, ton unique, ton Fils, Jésus. Tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Oh, alléluia! Père, je prie que tu puisses nous donner une révélation de qu'est-ce que tu as fait quand tu nous as envoyé ton Fils. Que Dieu le Fils s'est fait chair, il est devenu un homme. Et que Jésus, tu es lié pour éternité à la race humaine. Tu es la postérité de David. Tu règnes sur le trône. Tu nous aimes. Tu es pour nous. Tu es avec nous. Tu es en nous, Seigneur. Oh, hallelujah. Mon cœur est touché ce matin par l'amour de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu. Je n'ai pas mérité la vie éternelle. En fait, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Merci Seigneur pour mon substitut. Vous savez, ce matin, si vous êtes ici et vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, si vous n'avez jamais connu Jésus comme le premier point a dit, comme votre substitut, vous n'êtes pas encore dans une position de le connaître comme votre avocat, ou comme votre grand frère, ou comme votre sacrificateur, toutes les autres choses qu'on a mentionnées. Ces fonctions sont réservées seulement et uniquement pour ceux et celles qui ont déjà reçu par la foi le don gratuit de la vie éternelle et qui ont reçu le sacrifice, le substitut de Jésus. La Bible est clair que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Et ce matin, avec tous les yeux fermés, on fait cela chaque dimanche matin. On donne une occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, ce matin, qui dirait, « Pasteur, pour être honnête avec moi-même, pour être honnête avec toi et honnête avec Dieu, je ne suis pas sûr et certain d'avoir donné ma vie à Jésus. » Si c'est ton cas aujourd'hui, juste lève votre main, lève ta main. S'il y a quelqu'un ici qui a besoin de donner sa vie à Jésus, d'accepter son sacrifice, tu peux sortir d'ici sachant que tous vos péchés sont effacés par le sang de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus ce matin, juste lève la main. Peut-être tout le monde l'a fait déjà, mais sinon, n'hésite pas. Si tu confesses devant les hommes le Seigneur Jésus, Jésus te confessera devant son Père. Mais si tu le renies, si tu le nies devant les hommes, il te reniera devant son Père. Est-ce que quelqu'un, on aime donner cette occasion? Il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin qui a besoin de recevoir le substitut? La meilleure chose qu'on peut faire, c'est de confesser Jésus. Si Jésus a pris la peine de devenir un homme et de se laisser battre et percer par les clous, être cloué à une croix cruelle pour nous sauver, la moindre chose qu'on peut faire, qu'on doit faire, c'est tout simplement de le recevoir, de lui dire, « Oui, Seigneur, j'accepte ton sacrifice. Tu n'es pas mort en vain pour moi. J'accepte. Je te donne ma vie. Oh, viens sauver mon âme, Seigneur. Tu as déjà versé ton sang et je le reçois. » S'il y a quelqu'un d'autre ce matin, moi, je ne suis pas pressé parce qu'il n'y a rien de plus important que de voir des personnes nées de nouveau. Et ce matin, je vais demander à ce que, si vous avez levé votre main ou vous aurez dû lever votre main, je vais vous demander de faire quelque chose que peut-être ça va être un peu difficile, mais fais-le parce que c'est un pas de la foi que Dieu va honorer. Et en faisant ce pas de la foi, Dieu va te rencontrer. Et on va faire une prière ensemble. Et tu vas te sauver, tes péchés vont être effacés, tu vas commencer une nouvelle vie avec une carte blanche et rouge. Donc, ceux et celles qui auraient dû et qui ont levé la main, je vais juste vous inviter à venir ici en avant. Je vais vous rencontrer ici. On va prier ensemble. Juste, viens, viens, on va prier. Parce que Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Ça prend du courage pour le faire. C'est bon. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour elle ce matin? Merveilleux. Tu prends une bonne décision. Et on va inviter tout le monde à prier avec ton nom encore, c'est Sonia. Sonia, tu sais, Jésus est vivant et t'aime. Et c'est le commencement d'une nouvelle vie aujourd'hui. Tous tes péchés sont pardonnés à lui. Tout, peu importe. Tu vas recommencer une vie nouvelle en Jésus. Je vais juste te demander de faire cette prière avec moi. Juste répète cette prière avec moi. Je vais demander à tout le monde de prier cette prière. Donc, juste fais cette prière. Père Céleste, je viens à toi et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour toi. Merci Seigneur. Mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle création. J'ai une carte blanche. Une nouvelle vie commence aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour elle? C'est merveilleux. Amen. 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 Avant de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans son cœur, Sonia, on a un petit cadeau qu'on aimerait vous donner. On a une Bible qu'on veut t'offrir. Et si tu veux aller même avec René et Ginette, on va t'offrir une Bible. On a juste une petite pièce juste en arrière de cette porte. On a des Bibles. On veut t'offrir comme cadeau. Et si tu as d'autres questions, tu peux les poser à Ginette qui est formée pour prier avec toi. Est-ce qu'on va, on va remercier le Seigneur encore pour elle? Si un pécheur se répand, tous les anges des cieux se réjouissent. Amen. Alléluia. Je sais qu'il y a un parti au ciel ce matin. Alléluia. Moi, je sais que Jésus est content. Un autre dans son royaume, une autre personne dans sa famille. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Vous savez qu'on va doubler en 2006. Hein, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les vacances. On en profite, mais moi j'ai bien hâte. Je sais que dans les semaines à venir, on va voir des grandes choses. J'ai beaucoup de choses dans mon esprit, dans mon cœur. Et on va de l'avant comme église, n'est-ce pas? Et puis on va avoir un bon temps. On va voir beaucoup plus de personnes comme Sonia qui vont donner leur vie au Seigneur Jésus. Et amène des personnes. Amène-les. Et on va voir un grand nombre de personnes dans cette ville sauvées et délivrées au nom de Jésus. Père, merci. Merci Seigneur qu'on va sortir d'ici aujourd'hui en sachant que tu es vivant. Tu es avec nous, tu es pour nous et tu es en nous. Au nom de Jésus. On va chanter, on va célébrer. Et n'oubliez pas, mercredi soir, à 19h, on est là pour bâtir un peuple qui aime Dieu. Amen.